Campus Bordeaux.
Pour un doigt.
Midi 30, on est toujours en direct et vous écoutez Café Campus. À présent, on accueille Pierre pour sa première intervention au sujet de partager l'architecture écriture croisée. Est-ce que ça va toujours, Pierre ?
Oui, ça va très bien.
Alors, partager l'architecture écriture croisée, c'est une série d'interviews, d'interventions que tu nous proposes. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous détailler un peu plus, nous raconter la genèse de ton projet ?
Mais c'est d'abord à la fin de mes études, donc je suis en master 2, donc j'arrive bientôt à la fin de mes études d'architecture. Donc c'est sur 5 ans, c'est un master en architecture. Et il se trouve que de manière générale, quand on parle aux gens, mais dans l'opinion publique, eh bien quand on dit qu'on est architecte, tout de suite ils réagissent « Ah, tu sais dessiner ». Et c'est quand même assez compliqué parce que je ne sais pas dessiner, tout simplement. Et donc c'est parti de là où je voulais travailler sur le non-dessin dans l'architecture, puisqu'en fait en France, et à l'international aussi, mais particulièrement en France, on relie vraiment beaucoup l'architecture à l'art, ce qui est totalement légitime, mais parce qu'en fait, avant mai 68, pour finir architecte, pour devenir architecte, eh bien, il fallait faire les beaux-arts, donc il fallait en fait être artiste. Et c'était un artiste, et après, il devenait architecte. Et donc, ça vient des beaux-arts, et donc c'est très lié au dessin. Et en fait, le dessin dans l'architecture, ben, c'est pas du tout la chose. C'est pas parce qu'on dessine qu'on est architecte. On peut très bien dessiner en étant artiste, et une fois qu'on est architecte, on peut dessiner ou pas. Et en fait, c'était à partir de ça où je voulais un peu mettre en lumière plutôt autre chose, d'autres moyens de communiquer, de parler l'architecture. Et un des autres moyens, c'est tout simplement l'écriture. C'est donc le fait de lire ou d'écrire. Et donc, à partir de ça, j'ai commencé... j'ai voulu interroger différentes personnes, puisqu'en fait, au final, l'architecture, c'est plus spatialiser, c'est plus en fait mettre en pratique et mettre dans l'espace des idées. Donc, par exemple, l'idée de réunir les gens, de rassembler les gens, de faire quelque chose de commun, et bien architecturalement, on peut se débrouiller pour que les murs, les portes donnent sur un même endroit, par exemple. Donc, on a une idée de base qui est très théorique en soi, qui est mettre en commun, rassembler, et de manière très spatiale, ça va être une forme, un bâtiment, qui fait que les gens se réunissent à cet endroit-là. Et donc, au final, le dessin n'est qu'un moyen de communiquer, de partager l'architecture. Et donc, j'ai voulu essayer de chercher d'autres façons, qui étaient, par exemple, l'écriture. Et donc, quel était le rapport au texte, en fait, des étudiants et des enseignants de l'architecture, puisqu'au final, en fait, les enseignants, les étudiants, c'est l'avenir de l'architecture. Au final, dans 30 ans, eh bien, ceux qui feront l'architecture contemporaine, c'est les étudiants d'aujourd'hui. Donc, en fait, comprendre leur rapport aux mots, au texte, à la verbalisation des idées, ben c'est comprendre en fait le futur aussi de l'architecture en partie. C'était un peu ça le propos de cette émission.
Mais est-ce qu'il faut quand même des prérequis pour faire des études d'architecture ? Parce que tu nous expliques que le dessin, c'est pas forcément la chose centrale. Mais est-ce que quelqu'un qui sait dessiner a peut-être plus de facilité ou part avec un avantage pour devenir archi ?
Donc avant, je sais que, en fait, avant, jusque dans les années 2000, je crois, il y avait vraiment un concours, dont un concours de dessin. À l'international, ça se fait énormément. Je sais qu'en Grèce, et là où j'ai fait mon Erasmus, il faut savoir dessiner pour rentrer dans des écoles d'architecture. Et en fait, aujourd'hui, en France, c'est plutôt sous forme d'entretien, donc c'est plutôt être motivé. Disons qu'en fait, savoir dessiner, c'est un plus. Mais tout comme savoir écrire, et c'est l'objectif de cette émission, c'est aussi un plus. Mais j'aurais quand même tendance à dire que dès le début, dès la première année, donc on rentre à l'école d'architecture, donc imaginez-vous vraiment quand vous rentrez à l'université ou n'importe, les deux premières semaines, c'est un intensif de dessin où en fait on nous apprend un peu à dessiner. On nous apprend à dessiner de manière géométrique, c'est-à-dire faire un plan, et on nous apprend un peu les bases, disons. Et donc c'est quand même très centré, et toute la première année, la matière principale en soi, c'est quand même le dessin. Donc c'est quand même un sacré plus. Et beaucoup d'étudiants, moi je suis sorti du bac, donc je savais pas du tout dessiner. Ça me plaît, hein, j'aime dessiner, mais je sais pas bien dessiner en soi. Alors que beaucoup d'étudiants, eux, sortent équivalent MANA, donc c'est-à-dire c'est des écoles où on nous apprend vraiment à dessiner. Donc c'est quand même un plus, ouais, il faut le dire.
Donc toi, c'est plus l'écriture.
Exactement. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Écrire plus sous forme de journal intime, un peu, on va dire. Raconter des histoires, des anecdotes de voyage, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai toujours préféré lire et écrire. Et j'ai toujours trouvé que c'était complètement complémentaire avec l'architecture, que j'étais pas du tout en marge et que c'est pas parce que je préférais lire que tout de suite je ne pouvais pas devenir architecte. Et je pense que c'est complémentaire. Oui.
Et alors, sur ce sujet de l'écriture au sein de l'architecture, tu es allé à la rencontre de plusieurs personnes. Donc, il y a des enseignants-chercheurs, des libraires, des étudiants. Et on va découvrir ça au fil des semaines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les personnalités que tu as choisi d'aller rencontrer ?
Mais j'ai vraiment essayé de trouver un peu d'avoir une vision globale des études d'architecture. Parce qu'en fait, quand on est donc étudiant en architecture, on a comme matière principale, c'est l'atelier de projet. Donc, c'est là où, en fait, on construit un bâtiment. Enfin, on le construit jamais, on le conceptualise. Donc, c'est là où on va venir, par exemple, dire mon idée générale, c'est rassembler ce que je disais tout à l'heure. Et donc, architecturalement, spatialement, en termes d'espace, je le mets en place comme ça. Donc, ça, c'est la matière principale. C'est vraiment ce qui compte. C'est plus d'un tiers, je crois, des ECTS dans les études d'architecture. Donc, j'ai vraiment cherché à rencontrer déjà ces profs-là. Donc, on a un prof qui est enseignant-chercheur. Donc, il est enseignant de cette matière-là. Une prof qu'on verra dès la semaine prochaine qui est à l'école d'archi de Toulouse, Francine Zarkos, qui, elle, est enseignante dans cette matière-là. Donc, on a vraiment cet enseignement principal. Et ensuite, après, on a d'autres enseignants qui vont qui sont tout autour, dont le mémoire. Donc, la semaine encore d'après, on découvrira un enseignant de mémoire qui est aussi enseignant de projet, cet enseignant de chercheur-là. Ensuite, après, on a un autre enseignement qui, lui, est plus tourné autour des questions urbaines et paysagères. Donc, c'est-à-dire, le bâtiment, il est bien entouré, il est dans une ville, donc il est à la campagne même. Et donc, quelles sont les problématiques autour ? Donc, ça, j'ai aussi cherché à trouver cet enseignant-là, à aller parler avec ces enseignants-là. Et puis ensuite, après, tout le côté un peu plus professionnel, on va voir la médiathèque de l'école d'architecture de Bordeaux, donc qui a bien expliqué quel était le rapport et quel était son objectif, quel était le rapport des étudiants à la lecture, puisqu'elle propose des livres à lire sur l'architecture. Et après, une libraire qui, elle, était aussi très intéressante, qui, en fait, est architecte de base, et elle trouvait que dans sa pratique de l'architecture, elle travaillait dans des agences, il n'y avait pas assez de liens avec la lecture, alors que la lecture pour elle était vraiment fondamentale pour pouvoir s'inspirer et pouvoir faire son travail en fait. Donc elle a décidé de créer une librairie indépendante sur l'architecture, l'art et l'artisanat qui est à l'Aréole, donc c'est pas très loin. Donc c'est une librairie qui est en ligne où on peut commander tout, mais tout se fait en ligne du coup.
Et aujourd'hui, qui va-t-on écouter ?
Alors aujourd'hui, on va juste écouter un court extrait d'abord de Ken Fitzsimon. C'est cet enseignant-chercheur qui était vraiment très intéressant et qui nous parle du lien de manière générale, on va dire, de la langue, du langage et donc de l'écriture, puisque l'écriture est une des branches un peu de la langue. C'est une façon de communiquer la langue. On peut la communiquer oralement ou par écrit. Et aussi, donc de ce langage avec l'architecture. Et je voulais vous faire découvrir, donc c'est un enseignant-chercheur et maître de conférence à l'école d'architecture de Bordeaux, Ken Fitzsimon.
Tout ce qu'on lit et tout ce qu'on écrit fonctionne comme un intermédiaire d'idées, comme porteur d'idées entre nous, parce que nous avons une capacité linguistique inhérente. Et ça, c'est une des bases des travaux de Ferdinand de Saussure, c'est que le langage, c'est une capacité dont ont tous les êtres humains, et peut-être d'autres animaux aussi, mais tous les êtres humains ont une capacité linguistique qui est génétique. Après, la langue, c'est l'ensemble spécifique de sons et de rapports entre sons et idées. Hein, en français, en anglais, en swahili, en Inuktitut dans le nord du Canada, voilà, il y a des langues spécifiques qui sont composées d'un nombre fini de sons qu'on peut composer d'une manière presque infinie pour communiquer des idées. Et après, la parole, c'est ce que je fais maintenant, c'est créer des phrases, créer des expressions singulières linguistiques qui nous permettent de partager des idées. Voilà. Et donc ça, quel est le rapport à l'architecture ? Eisenman dit que l'architecture, c'est un langage, au fond, il y a des règles linguistiques pour l'architecture, et tout bâtiment est une parole, quelque part une expression singulière, qui doit respecter les règles pour être de l'architecture. Voilà. Donc le lien entre écriture, lecture et linguistique, dans ce cas-là, c'est ouais, c'est un peu ténu, mais c'est cette capacité linguistique peut-être qui nous permet aussi de comprendre l'architecture. De quand on voit un bâtiment, comme je dis toujours aux étudiants, voilà, le fonctionnement linguistique de l'architecture, on peut dire, quand on regarde un bâtiment, on rencontre un grand bâtiment avec une énorme colonnade assez, on va dire, austère, on ne dit pas c'est une maison, ou c'est un orphelinat, ou c'est une... on sait que c'est une institution. Mais pourquoi on pense ça? Parce que on a, notre culture a créé un lien conventionnel entre cette image-là et l'idée d'institution, que ce soit la justice, que ce soit les lieux de pouvoir, d'exécutif, de délibération démocratique ou de siège d'une dictature. Voilà, on crée ces liens et ça, c'est la linguistique qui nous explique ça.
Et donc, Ken Fitzsimon nous explique bien le lien entre architecture et langage. Et comme Jim, juste avant, a fait une petite chronique sur le langage et sur les mots composés du langage avec la manipulation qu'il y a derrière, eh bien, l'architecture, au final, c'est vraiment un langage. Puisque, par exemple, on a l'idée de l'ordre, l'idée de l'autorité, comme il vient de l'expliquer. Eh bien, le mot ordre-autorité s'exprime architecturalement par une colonnade, par exemple. Donc, au final, il y a vraiment un lien entre architecture et langage. Et ça, c'est donc Ferdinand de Saussure, donc il vient d'en parler, un linguiste suisse qui nous le dit. Et donc ce linguiste suisse, il est adepte du structuralisme. Alors c'est pas du tout structuralisme, ça pourrait très bien ressembler à un mouvement architectural, on se dirait c'est le mouvement qui prône la structure par exemple, mais pas du tout, c'est un mouvement linguistique, donc c'est ça qui est important. Et donc on va avoir Ferdinand de Saussure, donc il y fait référence, mais il fait aussi référence à Peter Eisenman, qui est un architecte que j'imagine autour de cette table vous ne connaissez pas, bien sûr, c'est normal, c'est l'architecture. Et donc c'est un architecte américain, et justement lui il prône plutôt une forme de déconstruction de l'architecture avec des logiques qui sont différentes, en s'inspirant d'autres champs disciplinaires, dont la linguistique. Et donc, par exemple, est-ce que vous connaissez des architectes autour de cette table? Parce que c'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que l'architecture, eh bien, on ne connaît pas. Donc, Peter Eisenman, vous ne connaissez pas. Et est-ce que Mélissa et Jim, par exemple, est-ce que vous connaissez des architectes?
Moi, je connais les plus célèbres.
Alors, dis-moi.
Je sais qu'il y a Jean Nouvel.
Bien, ok.
Après...
Mais c'est déjà pas mal. Et toi, Mélissa, est-ce que tu saurais dire un nom d'architecte ou pas?
Alors, moi, je connais l'architecte du bâtiment où on est actuellement. Je crois que c'est Fuxas.
Très bien, Maximiliano Fuxas.
Ensuite, vraiment, j'en connais pas des masses. Est-ce que Gustave Eiffel est un architecte?
Et du coup, en théorie, ça, on me le sort tout le temps, mais c'est normal. J'étends beaucoup dans les Blablacar, par exemple, c'est l'endroit parfait pour dire est-ce que vous connaissez un architecte? Et bien, très souvent, les gens me disent Gustave Eiffel. Alors, en partie, c'était un ingénieur, mais on peut dire qu'il est quand même à peu près architecte. C'est une vraie discussion au sein du débat architectural, mais bon, je suis d'accord, c'en est à peu près un. Et donc après, Jean Nouvel, bien, c'est un architecte français, mais c'est quand même fou comme on peut pas citer des architectes, alors que l'architecture, c'est partout. Enfin, en fait, on est dans un bâtiment.
C'est un travail de l'ombre, peut-être.
Exactement. De un, c'est un travail de l'ombre, et de deux, c'est quand même plutôt presque un travail en fait artistique qui n'est pas connu, parce qu'en fait, au final, l'architecture, beaucoup de théoriciens, c'est un vrai débat au sein de l'architecture, est-ce que c'est un art ou pas? Parce qu'en fait, on peut très bien avoir des émotions face à un bâtiment. Par exemple, la Tour Eiffel, on va être un peu ému, enfin, on va ressentir des émotions face à la grandeur de l'édifice, par exemple, tout simplement. Et donc, est-ce que c'est un art ou pas? C'est une très grande question. Et le fait que, en fait, lié à l'architecture, c'est vraiment la fonction. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de construire à tel endroit telle chose? C'est parce que y a une fonction, très souvent. Pour, ne serait-ce par exemple que pour la Tour Eiffel, c'était vraiment montrer la grandeur de la France à l'exposition universelle. C'est qu'il y a toujours une fonction. Alors que l'art, en théorie, ça ne sert à rien. Il y a plein d'utilités à l'art, mais en termes de survie, en termes d'utilité pure et fonctionnelle, il n'y en a pas. Alors que l'architecture, oui, dans un bâtiment, on boit, on va n'importe, on mange, on travaille, on fait tout dans un bâtiment. Et ça, c'est une très grande question. Et donc, en fait, au final, l'architecture, ça serait presque l'art le plus commun, le plus basique et ce qui nous entoure le plus. Et pourtant, on n'est même pas capable d'en... Alors, parfois, oui, un, mais c'est très rare. On ne peut pas le citer. Alors qu'au final, ben, un musicien, on va bien pouvoir en citer un. Je sais pas, moi, un cinéaste, un réalisateur, on va pouvoir en citer au moins un. Alors que l'architecte, un architecte, même pas. Et ça, c'est quand même quelque chose de fou. Donc, c'était aussi un petit peu l'objectif de cette émission radio. C'était juste parler d'architecture. Où, au final, ben, les étudiants, parce qu'en fait, ben, les étudiants dans des campus d'aujourd'hui, ben, c'est le futur, c'est des personnes qui vont vivre d'ici 30 ans, en théorie, puisqu'ils sont jeunes. Et donc, c'est le futur. Donc, le fait d'en parler un petit peu, c'est un petit moyen de parler d'architecture et donc d'architecte, forcément. Et si vous voulez, je peux vous proposer un petit peu d'entendre justement des étudiants et d'entendre un futur architecte, une étudiante donc, qui est Noémie, à qui j'ai interrogé. Je voulais vraiment mettre en avant un peu les étudiants d'abord avant les enseignants. Et donc Noémie nous parle de son rapport entre l'architecture et l'écriture. Donc je suis avec Noémie qui est en train de lire dans la Pira, donc le foyer de l'école d'architecture de Bordeaux. Donc je te vois qui est en train de lire, c'est pour ça que je viens. Donc tu lisais juste avant La dimension cachée d'Edouard Hall. Ouais,
et celui-ci. L'histoire du corps de Jean-Jacques Courtine, un tome. Ouais. Il y en a écrit plein d'autres sur le corps. Intéressant, on a tendance à l'oublier.
C'est vrai, dans l'archi, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, ça t'arrive souvent de lire?
De lire, oui. Alors quand j'étais petite, je bouffais mes livres, surtout sur l'Égypte, toutes les histoires autour de l'Égypte. J'ai perdu cette envie de lire quand je suis rentrée en archi, en fait. Je pense que c'était une question de temps et aussi d'intérêt direct. On m'a plongée dans l'archi et c'était beaucoup plus visuel au final que des dessins, de la maquette. Visuel et dans la pratique aussi, mettre la main à la pâte. Donc j'ai un peu arrêté de lire en études d'archi. Et puis petit à petit, j'ai repris ça tranquillement. Et puis mes lectures, du coup, se sont dirigées vers des thématiques qui touchent à l'architecture quand même. Mais j'ai un petit peu arrêté de lire de la fiction, du romantisme, tout ça.
Et en lien avec le mémoire, le fait qu'on te demande de lire aussi, ça t'a peut-être obligé un peu de te replonger dedans, pas
oui,
forcément.
Oui, complètement. Avec une autre façon de, ouais, une autre approche de la lecture quand même. Enfin, c'est de la recherche, donc je lis pas de la même façon. Comme je disais, je bouffe pas le livre, mais je l'étudie plus. Je vais direct à la table des matières. C'est quelque chose que je faisais jamais avant. C'est quelque chose vraiment que je faisais jamais. Regarder les notes aussi de l'auteur. Les références. Donc c'est une autre façon de lire qui est intéressante, moi qui me stimule un petit peu moins quand même. Mais après bon, ce sont des écrits plutôt théoriques, donc forcément c'est une autre façon d'appréhender la lecture. Problématique, on va direct chercher ce qui nous intéresse, des citations, des phrases qu'on analyse, venir comparer aussi. Donc c'est... Ça demande... Je sais pas, ça me demande... Une autre façon de travailler, même au niveau du cerveau, de l'esprit. C'est une autre façon de travailler. Je suis beaucoup moins plongée dans le livre parce que j'ai toujours un autre livre, du coup, une autre information qui me trotte dans la tête pour venir comparer. Là, c'est beaucoup plus scientifique comme lecture. Très intéressant, mais moins passionnant.
Donc ça, c'est pour toute la partie lecture. Et d'habitude, est-ce que tu écris aussi ou pas du tout?
Non, j'écris peu. L'écriture, c'est waouh. J'ai un petit peu, mais même en architecture, le syndrome de la page blanche. Même là, pour le mémoire, je galère, tu sais, à commencer à écrire les premiers mots. Après, je sais que si je commence à écrire, hop, ça peut aller vite. Mais j'écris peu. Je me mets peu à l'écriture. Un peu peur d'écrire. Beaucoup moins peur de lire.
Okay. Et avant, tu écrivais avant les écoles d'archi ou du tout?
Oui, j'écrivais beaucoup. Un journal intime. Oui, tu retraces ta journée, mais bon, c'était beaucoup plus naïf et libre, au final. Là, bon, quand on grandit, on se pose d'autres questions, et c'est toujours plus difficile de répondre à ces questions. T'as l'impression qu'elles sont définitives, donc non. Mais j'aimais bien écrire, ouais, j'aimais beaucoup écrire, et j'aime encore, mais j'écris peu, mais peu, ouais. Ouais.
Sous forme toujours du journal intime, un peu?
Eh bien, sur mes premières années d'archi, j'ai écrit pour la première fois, parce qu'on m'avait sollicité dans ça, une parole, des paroles de musique, des paroles de chansons, avec quelqu'un qui rappait, Raphaël Mention, j'étais là. Rappait, on avait fait ça pour le Archibal, le festival de l'école. C'était la première fois que j'écrivais, mais alors qu'est-ce que c'était dur. Mais j'ai adoré faire ça. Et aujourd'hui, j'ai essayé de reprendre le journal intime, mais non, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et le mémoire. Mais voilà, le mémoire, c'est scientifique. Ouais. Là, par exemple, juste sur l'introduction, je vais partir dans des espèces de... Je sais pas, de formulation de phrases très poétiques. Alors que non, il faut que je cadre mes esprits. Donc non, j'écris plus trop quand même. En réalité, j'écris plus trop. Le mémoire, ça va être la relance de l'écriture pour moi, mais... Par exemple, sur les rendus de projet à zéro, format à zéro, un titre très visuel quand même, j'ai toujours écrit un petit texte. J'ai toujours écrit un petit texte parce que souvent, quand je commence un projet d'architecture, ça part de ce que je ressens d'une certaine sensibilité. Pour le faire communiquer, ça, j'aime bien écrire un petit texte descriptif, souvent à côté du plan de masse, là, le premier doc, celui qui fait un peu peur. Ouais, si, j'ai toujours... Si, c'est vrai, ça. J'ai toujours écrit un court paragraphe sur mes rendus de projet, okay. Ouais. Ce qui explique mon projet. Par contre, avant l'oral, par exemple, je suis pas capable d'écrire mon oral. Ça, je sais pas. Je pense qu'en fait, c'est une façon d'organiser son esprit que j'ai pas forcément. Tu sais, petit A, petit B, petit... Cette façon d'organiser son esprit pour écrire, ensuite, je l'ai pas. Je l'ai pas, donc je suis incapable de prévoir mon oral et de décrire mon oral. Ça, je sais pas faire. Mais par contre, quand c'est un petit texte sensible, sur d'où les idées me sont venues, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai touché, qu'est-ce que j'ai senti pour m'emmener à produire cette architecture-là, ça je peux faire.
Et puisque tu étais partie un an à Prague en Erasmus, tu as dû beaucoup voyager. Est-ce que par exemple, dans les voyages, ça t'arrive d'écrire ou du tout?
Non. Oui. Avant de partir, l'année dernière à Prague, ma sœur m'a offert un carnet de voyage. Première page, elle a écrit « carnet de voyage », donc pour que j'écrive, colle des trucs. Et je ne m'en suis absolument pas servie. C'est vraiment ce truc d'avoir un carnet, je ne sais pas comment faire en fait. Je ne sais pas par où commencer. Je me pose trop de questions avant de poser la plume sur la page. Mon cerveau est assez anesthésié dès qu'il s'agit d'écrire.
Et du coup, tu dirais que c'est de la peur de base, comme
oui,
tu viens de
pense.
Le dire tout à l'heure.
Je pense que c'est vraiment une question de peur. Poser des mots sur papier, les ancrer, ça me fait... Puis je me pose toujours beaucoup de questions avant de commencer, même une phrase ou à l'oral ou quoi. Donc non. C'est une peur. C'est une peur, je pense. Ouais.
Et est-ce que cette peur, tu l'as un peu pour faire le projet?
Toujours. J'ai toujours cette peur de commencer quelque chose. De commencer. Une fois que c'est embrayé, ça coule. Mais j'ai toujours une appréhension. Ouais. Une espèce de... Je sais pas, peut-être que c'est une question d'exigence vers moi-même. Tu vois, si j'écris, faut que ce soit bien, quoi. Ouais. Le lâcher prise est dur, on va dire.
Et donc, nous avons Noémie qui vient de nous parler de son rapport à l'écriture. Donc, elle a abordé plein de thèmes, que ce soit à la fois son rapport à l'écriture pour chercher des idées, mais aussi pour les transmettre, ou par exemple aussi plus du côté du mémoire, donc qui est un exercice pour devenir architecte. Et donc, de manière générale, dans ces entretiens, j'aimerais à chaque fois essayer de venir et de rebondir sur un texte à la fin que je viendrai vous lire, en rapport avec la thématique, mais aussi conseillé par la personne que j'interroge. Et donc, effectivement, oui, globalement, les étudiants, quand même, ou les enseignants sont plutôt ouverts à discuter de ce rapport-là, parce que c'est, au final, quelque chose que l'on étudie assez peu, l'écriture dans l'architecture, et qui est pourtant, au final, quand on réfléchit, le texte, puisque en France, aujourd'hui, tout le monde, c'est presque tout le monde, on va dire, c'est lire et écrire. Donc au final, si on veut communiquer sur l'architecture, eh bien, ça serait quand même bien plus pratique d'en parler, alors que lire une coupe ou un plan, eh bien, on ne sait pas bien lire des coupes et des plans. Et donc au lieu de commencer à expliquer à toute la population française comment lire un plan ou une coupe, eh bien, peut-être qu'on pourrait tout simplement communiquer sur l'architecture de la manière écrite. Et donc je vous propose par exemple de vous lire un texte. Donc c'est La dimension cachée, elle en parle au début. Donc c'est ce qu'elle disait, donc c'est de Edward Hall. Et de manière générale, dans cette cette dimension cachée. Édouard Rolle nous explique le rapport qu'il y a entre la société et architecture, et notamment sur le côté de la distance sociale. Donc la distance sociale qui est en rapport avec la distance physique. Par exemple, de manière très concrète, quand on est en cours magistral, donc dans un amphithéâtre, la distance entre nous et le prof, elle est très loin. Donc on est bien loin et le prof, il est au-dessus de nous, ou du moins il est très éloigné. Et il y a vraiment un rapport qui est maître à élève dans cette distance-là. Alors que, par exemple, quand on est à côté et quand on discute, eh bien on va être proche de la personne et donc on va être plus amical. Et donc, en fait, il y a un vrai lien entre distance physique et distance sociale, ce qui change tout dans l'architecture. Et donc, je vous lis, par exemple, la quatrième de couverture de La dimension cachée d'Edouard Hall. La dimension cachée, c'est celle du territoire de tout être vivant, animal ou humain, de l'espace nécessaire à son équilibre. Mais, chez l'homme, cette dimension devient culturelle. Ainsi, chaque civilisation a sa manière de concevoir les déplacements du corps, l'agencement des maisons, les conditions de la conversation, les frontières de l'intimité. Ces études comparatives jettent une lumière neuve sur la connaissance que nous pouvons avoir d'autrui et sur le danger que nous courons, dans nos cités modernes, à ignorer cette dimension cachée. Peut-être est-ce moins le surpeuplement qui nous menace que la perte de notre identité. La dimension cachée d'Edouard Hall.
Merci beaucoup, Pierre. Alors moi, j'ai deux petites questions à te poser au niveau de l'écriture. Donc on a expliqué qu'on pensait le plus souvent au dessin pour l'architecture. Mais alors, qu'est-ce qu'on écrit concrètement en rapport avec l'architecture? Est-ce que c'est ce qu'on écrit son projet? Est-ce qu'on écrit l'idée du bâtiment, ce qu'on s'en fait, peut-être au niveau du ressenti? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est juste pour les cours de manière académique?
Eh bien, je vous laisse découvrir l'émission. Non, mais de manière générale, je pense qu'il y a différentes façons d'écrire. Il va y avoir la première façon qui est un peu celle de la réflexion. Très souvent, les étudiants nous répondent celle-là. C'est-à-dire, ils cherchent des mots, ils se font des listes pour se dire, ok, je voudrais dire ça, donc par exemple, mettre en commun. Donc, mettre en commun, ça équivaut à tel mot. Donc, c'est plutôt sous forme de liste. Très souvent, les étudiants nous répondent ça. Ensuite, après, il va y avoir toute la partie plus donc de la recherche, où en fait, on va venir lire des articles et donc collecter, donc le devoir en fait de recherche, donc collecter les savoirs autour de la thématique que l'on choisit pour après venir les restituer. Donc là, c'est plus sous forme de rédaction. C'est-à-dire qu'il y a un but à l'écriture. Il y a un but, c'est de montrer par A plus B que l'on a raison ou pas, ou que notre thématique est pertinente. Bon, ça dépend de ce que l'on veut montrer. Donc il y a différentes façons, oui, d'exprimer. Et après, il peut y avoir aussi le côté très descriptif. Donc c'est-à-dire qu'on va décrire un bâtiment. Il est de telle forme, il a telle couleur, il a tel matériel, tel matériau, pardon. Il va y avoir tel type d'usage, tel type de personnes vont l'utiliser alors que d'autres ne vont pas pouvoir. Et puis après, derrière, de la critique, où là, du coup, c'est plus libre. La critique architecturale, ça existe aussi, où là, il va y avoir à la fois le descriptif, mais à la fois un descriptif où l'on décrit que ce qui nous arrange, puisqu'il y a un argumentaire derrière, puisqu'on veut convaincre, le lecteur derrière que ce bâtiment est bien ou pas bien, ou différent, il a telle qualité ou non architecturale.
Et toi, Jim, est-ce que toi aussi, tu avais cette vision que faire des études d'architecture ou être architecte, c'était savoir dessiner?
Oui, vraiment, je me disais vraiment que c'était ça, et je ne pensais pas qu'on pourrait faire passer une idée architecturale sous couvert de texte. Donc c'est très intéressant, ta chronique.
Merci bien. Et bravo pour Jean Nouvel, c'est très bien que tu connaisses.
Ah, merci.
C'est pas mal.
Et justement, si cette chronique vous a plu, on pourra te retrouver une nouvelle fois la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec d'autres entretiens et d'autres témoignages sur le rapport à l'écriture dans l'architecture.
Exactement. Et la semaine prochaine, c'est avec Francine Zarkos, qui est architecte et maître de conférence à l'ENSA de Toulouse.